ce matin. Donc on a demandé à Anouk Flamand et Frédéric Jésus d'intervenir sur ces questions dont on a vu l'importance de concertation, de fabrication, de co-construction des projets, d'association des différents acteurs, dont on a vu qu'on était encore souvent sur le registre de l'information, plus que celui d'une participation active, en tout cas en particulier pour les parents et les enfants et les jeunes. Je vais demander à nos deux invités de se présenter. Anouk Flamand.
Donc bonjour, donc moi je suis chercheur en sciences politiques, je suis spécialiste de l'action publique locale et donc je travaille maintenant au sein de POLOC. Je vais intervenir ce matin de façon un petit peu particulière puisque Pierre Perrier, qui est professeur en sciences de l'éducation à l'université de Rennes 2, qui était invité, n'a malheureusement pas pu être présent. Et donc je présenterai plutôt les travaux que lui il a pu mener sur école et famille, école et parents, en essayant d'élargir, surtout sur la fin, sur cette question de démocratie locale. Voilà, et c'est à ce titre-là que j'interviens ce matin. Donc ce que je vais vous présenter maintenant, en essayant d'être le plus clair possible, c'est donc en m'appuyant principalement sur les enquêtes faites par Pierre Perrier concernant l'école et les familles, notamment les familles populaires, hein, à travers nos deux travaux qu'il avait fait en 2005. Il y a deux ouvrages, hein, en 2005 et 2012, et en 2012 qui s'appelait « L'ordre scolaire négocié ». Finalement, ces travaux portent sur la façon dont l'école peut et doit reprendre, enfin, ou prendre peut-être, faire des liens, en tout cas avec les parents, pour permettre de faire un lien avec à la fois ses familles, mais aussi avec le territoire dans lequel l'école est implantée. Je vais tout d'abord en fait revenir sur cette relation, hein, parent-enfant, sur comment est-ce qu'on peut questionner la construction de ce lien. Je vais aussi essayer de vous montrer que, comment est-ce qu'on peut évoquer des pistes de travail pour lancer cette coopération entre école et famille dans un territoire donné. Et puis je terminerai justement sur la question de cet enjeu plus particulièrement du territoire, la question de la citoyenneté qu'on peut essayer de proposer à travers l'ouverture de l'école. Alors premier élément... la relation entre parents et école, évidemment, je pense que vous le savez, mais c'est loin d'être une évidence, en particulier avec les familles populaires. Ces dernières ont depuis le début de l'école républicaine, hein, surtout dû s'arranger avec les normes et les attentes de l'institution. L'école est plutôt, jusque dans les années 80, hein, l'école est relativement fermée aux échanges avec la famille, et même auparavant, hein, c'est au tout début de l'instruction, hein, Jules Ferry va bien préciser qu'il faut justement cette séparation. Donc on part quand même d'une relation hermétique assez forte. Et dans les années 80, il y a une transformation sociale assez forte, hein, qui va se passer, de nouvelles revendications de mouvements sociaux. Il y a eu aussi des premiers temps où on va évoquer des crises de la famille, de la socialisation. Et l'école ne peut plus être un lieu clos et étanche aux échanges avec les parents. Et donc, elle va finalement, l'école, reconnaître la nécessité de mener une continuité éducative entre les familles et l'école, donc dans lequel l'enfant évolue. Et Pierre Perrier, notamment, va qualifier la création, finalement, de ce rôle de parent d'élève, hein, de nouveau rôle, celui d'être des partenaires et même plus des coéducateurs, enfin, voilà, de rentrer dans une relation de coéducation. Et finalement, avec un tel principe, on reconnaît que c'est une des conditions sine qua non à la réussite scolaire et à la réussite de tous ces enfants. Il faut donc s'interroger sur les différences entre parents d'élèves face à l'école, mais surtout aux inégalités de ce partenariat. C'est qu'au prix d'une coopération équitable qu'on va pouvoir penser l'école comme un lieu d'accroissement de la démocratie locale, plus concrètement. Donc il y a une circulaire, hein, du 15 octobre 2013 qui renforce cet objectif de coopération avec les parents, et particulièrement avec les parents les plus éloignés de l'institution scolaire. Donc on peut évoquer une politique volontariste et qui va permettre à l'école de s'ouvrir. Alors c'est une forte pression, hein, qui pèse sur l'école quand même, qui fait face à des parents multiples, issus de milieux sociaux différents, et pour lesquels il va falloir construire ce rôle de parent d'élève. Quand on évoque le faire avec les parents, la première chose qu'on peut remarquer quand on fait des enquêtes, c'est que souvent le parent reste un recours, plus qu'un allié, dans ce sens où il est surtout sollicité en cas de problème. Et deuxième point, en fait, quand on évoque les parents, on évoque surtout des parents principalement issus des quartiers populaires, de l'éducation prioritaire, où ça va se traduire par une injonction à la participation de ces parents d'élèves, injonction qu'on retrouve en fait dans de nombreuses politiques publiques à l'égard des quartiers populaires. C'est-à-dire que c'est une injonction de la participation plus active de ces parents. Ces parents sont en fait les plus éloignés de l'école parce qu'ils sont, très loin des enjeux qui va se poser. Finalement, le partenariat qui est créé par, qu'on peut mettre en place, on peut le qualifier, et Pierre Pierrier le qualifie d'inégal, dans le sens où toutes les familles ne se saisissent pas du tout de la même manière du rôle de parent d'élève. Elles ne s'y conforment pas de la même manière. Certains parents développent bien des stratégies face à l'école, mais ils sont relativement peu nombreux par rapport à la masse des parents, et surtout ils ont des compétences et des ressources adaptées à l'institution scolaire. Et c'est principalement, vous en doutez, en fait, les classes supérieures qui arrivent à mobiliser ces relations. Quant aux familles populaires, et avec la diversité que ça suppose, et j'insisterai sur ce point, c'est-à-dire que famille populaire, c'est comme... il est nécessaire de mettre c'est des familles populaires, parce qu'elles ont... Il y a une pluralité des cas, on est sur une société qui est de plus en plus fragmentée au niveau des classes populaires, où on occupe des métiers très différents, on a des horaires de travail très différents, on est dans des logiques sociales, il y a des origines sociales, économiques, migratoires différentes. Et sur ces familles populaires, il y a finalement un paradoxe qu'on a évoqué hier, il y a une forte montée des aspirations par rapport à l'école, parce que le diplôme notamment, il y a une obsession pour ce diplôme où on sait que c'est par le diplôme, on espère que par le diplôme on s'en sortira, et une forte dépendance par rapport à cette école. Et donc il va falloir essayer de travailler avec ses parents en essayant de, Père Perrier souligne, en essayant de sortir d'une vision soit de parents qu'on sollicite en dernier recours, voire que l'on qualifie de démissionnaires. Et on les qualifie de démissionnaires, soit sur le plan scolaire, en général c'est dans les deux cas, mais on suppose, donc je ne sais pas, que les devoirs sont non vérifiés, qu'on ne lit pas le cahier de liaison, etc. Mais aussi, ils sont qualifiés de démissionnaires sur le plan éducatif. On attribue à ces couches de la population un manque d'autorité, des horaires sans surveillance, etc. Et donc le résultat d'une désaffection, d'un désintérêt fort pour l'école. Pierre Perrier insiste, il me semble que c'est assez pertinent, sur la nécessité de renverser la perspective, c'est-à-dire qu'il faut sortir de ce soupçon de désintérêt ou de démission des parents, mais de renverser l'idée que qu'est-ce qui fait que dans le fonctionnement le plus ordinaire de l'école, qu'il y a des fractions socialement caractérisées de parents qui s'en éloignent systématiquement. Pourquoi est-ce que l'école, dans son fonctionnement, produit cet éloignement? Les parents ont bien conscience de l'enjeu de la réussite scolaire, mais ils ne maîtrisent pas les règles du jeu, ils ne maîtrisent pas les compétences et les dispositions. Les parents les plus vulnérables hésitent à participer à ce monde opaque, donc auquel ils ne sont pas familiers. En fait, ils espèrent globalement que l'école respecte sans discrimination aucune leurs enfants, qu'elle réalise une égalité des droits, mais ils vont se positionner dans une norme de non-intervention et ils vont même attendre que l'école les sollicite. Ce qui peut être marqué comme une scène de respect par rapport à l'institution scolaire. Et en même temps, les familles les plus vulnérables vont aussi voir de plus en plus l'école avec méfiance au fil des accros scolaires et relationnels qu'ils vont rencontrer, souvent en raison de normes et de règles qui ne sont pas partagées, méconnues, mal saisies. Et du coup, ils vont adopter une posture de défense pour se protéger Et du coup, ils vont avoir encore plus de difficultés pour nouer des relations. Quelles sont les relations qui peuvent établir pour justement essayer, dans le fonctionnement le plus ordinaire de l'école, que ces fractions socialement caractérisées s'en éloignent pas systématiquement. Et suite notamment à une enquête qui avait été menée par Pollock en Seine-Saint-Denis, Pierre Perrier fait des recommandations, il en fait notamment quatre assez importantes. Il va dire qu'un des premiers points, et ça rejoint peut-être ce qu'on a pu évoquer hier dans l'atelier sur formation partagée, qu'il faut identifier les points de mésentente. En fait, questionner comment est-ce que les parents se représentent le rôle de parents d'élèves. Et hier, on a évoqué dans l'atelier 5 sur formation partagée cette question cette compréhension des rôles de chacun, et il insiste là-dessus. Il est aussi nécessaire d'accepter des parents réels dans leur singularité, et il faut se défaire en fait de ce rôle prescrit de parents d'élèves. La parole doit être protégée, et donc il faut essayer d'instaurer un climat de confiance pour que les parents les moins assurés n'aient pas l'impression qu'en entrant dans certaines structures, certains dispositifs, ils soient étiquetés comme famille à problème. Et ça, c'est un enjeu assez fondamental d'accepter de ces liens-là. Il paraît plus pertinent aussi d'associer les parents sans proposer des dispositifs clés en main, de les intégrer dans la définition d'action collective et en explicitant toujours les règles de l'échange, parce que les règles implicites, ça conduit socialement à créer des relations de connivence, ou en tout cas d'impression de connivence, et qui sont problématiques. Et enfin, comme l'aurait dit Pierre Bourdieu, il est essentiel de ne pas parler ceux qui sont parlés. Ça veut dire que ça se traduit par la création de conditions d'égalité des parents. Il faut diversifier les modalités d'échange et de communication. Ça se développe dans certains territoires. Il faut veiller à l'écrit, à la communication écrite, orale, au face-à-face, à la communication dématérialisée, mais ça nécessite de s'interroger sur les formes de communication qu'on prend. Par la création de moments de valorisation des parents, dans l'espace scolaire, avec des fêtes, des spectacles, mais aussi la création de groupes d'échange, et par la multiplication de médiations et d'intermédiations. Il évoque des parents relais, des groupes de parole, des ateliers animés par un tiers, essayer d'étendre pour ne pas parler ceux qui sont parlés. Et dernier point que j'évoquerai, il y a un acteur qui est interrogé dans l'enquête qui a été faite en Seine-Saint-Denis qui dit qu'il faut, pour chaque territoire, innover pour agir. Il paraît important de laisser une part croissante à l'expérimentation, à l'innovation, pour atteindre les finalités partagées. Prendre en compte le territoire, c'est un enjeu qui est d'autant plus important qu'il permet de coller au plus près aux logiques sociales qui existent. Et hier, on a eu l'intervention d'un adjoint de Saint-Denis, et on voit bien que les logiques sociales à Saint-Denis sont probablement très différentes, mais même d'autres quartiers qualifiés de populaires dans des agglomérations plus petites. Donc c'est faire le pari de ces mobilisations territoriales, et ça permet d'avoir ça. Alors évidemment, ça crée une incertitude plus forte pour les acteurs, une inégalité en fait, entre ce qui va se passer entre les territoires. Mais finalement, l'inégalité territoriale, elle existe avant ça. Elle préexiste, puisque les territoires sont tous confrontés à des logiques sociales distinctes. Donc il faut s'appuyer sur cette dynamique collective, avoir cette approche territorialisée, et pour avoir un tissage vraiment socio-spatial des habitants. Finalement, en créant ces liens, ce n'est peut-être pas tant de la solidarité qu'on va obtenir en créant des liens entre école et parents d'un territoire, mais au moins de l'interconnaissance. Parce que solidarité, ça demande... déjà, l'interconnaissance, c'est bien. Et c'est dans ce cas-là que Pierre Perrier évoque d'ailleurs la figure du parent relais, c'est-à-dire des figures identifiées, reconnues localement, qui sont à la fois des vecteurs d'information et des voix pour représenter un spectre plus large de familles. Alors évidemment, il faut veiller, et c'est un des enjeux, de façon constante, à ce que ces acteurs restent des relais et ne deviennent pas, à ce moment-là, encore l'unique parole des parents. Ils vont parler ceux qui ne sont pas parlés, Et donc finalement reproduire des formes de domination sociale fortes. Il y a aussi l'instauration de lieux d'échange. C'est aussi ce qui a été monté par ATD Quart-Monde avec l'instauration de groupes de pairs, des lieux d'échange d'ateliers entre parents à Rennes, auxquels Pierre Perrier avait notamment participé. Et donc ça permet de penser le territoire comme un lieu où on propose ce qui se fait mieux dans l'enseignement, pour offrir de nouvelles ressources, faire de local une ressource. Et notamment de faire le territoire une ressource. Une des idées aussi qui peut être suggérée, qui me paraissait assez intéressante, c'est à la fois de faire du territoire, une source de savoir, c'est-à-dire promouvoir des projets de connaissance de l'histoire du quartier, des mémoires. On peut penser que c'est notamment extrêmement important dans des quartiers populaires à forte, avec des populations issues de l'immigration, pour lesquelles les lieux de mémoire de leurs parents, de leurs grands-parents, restent très limités. Je pense à Saint-Denis également, il y a eu une tentative de mise en valeur du patrimoine et de cette immigration qui disparaît, de tous ces gens qui sont venus et qui disparaissent dans l'histoire collective. Il y a eu un travail notamment mené par l'Université Paris 8 avec des étudiants, mais qui pourrait être imaginé même au niveau des écoles dans les quartiers. Et aussi faire de l'école un lieu ressource, c'est-à-dire ouvrir l'école à d'autres personnes, à d'autres associations. Un des exemples donnés, c'est utiliser les équipements informatiques par une autre association. D'essayer de faire de l'école un lieu qu'on investit pas uniquement pendant le temps scolaire, même si ça nécessite des dispositions distinctes à un moment donné. Ça peut être intéressant. Donc pour conclure, c'est un des leviers d'action pour agir sur les liens entre école et territoire, en ce sens où ouvrir l'école aux parents, c'est ouvrir l'école sur le territoire auquel il appartient, créer ces formes d'interconnaissance, d'appartenance multiple, et donc de permettre peut-être de recréer cette démocratie locale. Alors, je terminerai sur un petit bémol, ou en tout cas un questionnement. Évoquer ces questions d'ouverture, ça nécessite aussi de réfléchir aux logiques de domination qui vont quand même pouvoir se reproduire, je l'ai déjà évoqué, qu'on voit dans les instances de participation, classiquement. En sciences politiques, maintenant, il y a quand même une nombreuse série de travaux qui montrent justement que quand on ouvre des instances de participation, qui participe, la question du public est essentielle. La mise en œuvre de nouvelles installations de participation ne résout pas, loin de là, automatiquement, l'éloignement de certaines couches sociales. Même plus exactement, ça peut parfois les renforcer. Il faut aussi s'interroger sur, c'est un enjeu peut-être globalement plus fort, qui dépasse probablement la question de l'école, mais pourquoi est-ce qu'on assigne à ces populations les plus précaires toujours des lieux de participation qu'on qualifie d'infrapolitiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des lieux réels où on fait du politique, où on les tourne toujours vers des espaces de convivialité, de sociabilité. Ça serait une façon de résoudre notre crise de la démocratie, mais est-ce que vraiment... Pourquoi est-ce que les élites passent leur temps à essayer de mettre ces habitants dans des espaces où finalement ils ont peu de lieux de décision et ils décident sur peu de choses. Comment est-ce qu'on recrée vraiment du politique sur ces instances-là? Il faut accepter la conflictualité. La société, c'est du conflit. On n'a pas tous les mêmes intérêts. Il faut accepter que dans ces instances de participation, il y a du conflit. Le conflit, c'est nécessaire parce que quand il y a conflit, il y a politique. Et quand il y a politique, il y a sens de la société qu'on mène. Le politique, c'est ça, au sens peut-être le plus noble qu'on peut l'entendre, mais c'est le sens qu'on définit. Et il faut accepter d'avoir des instances où on se pose la question du sens que l'on donne. Et dernier point, il faut aussi s'interroger sur la manière dont on définit ces catégories de parents. Et Pierre Perrier évoque des familles, des missionnaires, etc. Mais je voudrais juste vous attirer l'œil sur une chose, c'est que quand on dit famille populaire, en fait on dit famille immigrée, dans 95% des cas. Il faut se poser aussi la question de nos relations avec toute une frange de la population qui vit une discrimination, alors même si ce terme fait peur dans la République française, mais des discriminations ethno-raciales qui ont été montrées, démontrées et remontrées. sur lesquels on a beaucoup de mal à se mobiliser, sur lesquels l'école continue à du mal à se mobiliser. Hein. Il y a des travaux, il y a des tentatives, bah, notamment du centre Alain Savary, sur ces questions de discrimination à l'école. Mais il faut se poser la question des catégories qu'on produit. Et à ce titre-là, je pense que déjà, quand on y est vigilant, on a déjà fait un grand pas, je pense, dans nos réflexions collectives. Merci beaucoup.
Merci Anouk Flamand donc, pour cette intervention qui permettait effectivement d'interroger, de remettre en perspective les relations entre les différents parents, ou en tout cas les parents réels, comme vous les avez appelés, et l'école, et qui permet aussi de mettre en lumière comment ces relations entre ces différents parents, entre chaque parent et l'école, s'inscrit aussi dans une démarche liée aux spécificités d'un territoire et en interaction avec les acteurs de ce territoire.